Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce soir, ensemble, nous allons essayer de vous apprendre un mot.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Le mot de ce soir est... Insulaire, insulire, haïr, R-E. J'irai bien en Corse, personnellement.
C'est bien. Moi, je vais aller en Australie.
Nous allons tous les deux dans des pays insulaires. On va que dans des pays quand insulaire.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
Par exemple, l'Angleterre aussi.
Non, c'est pas bon.
Ah bon?
Il y a deux airs.
Ah, il y a deux airs. Tu peux pas y aller.
Insulaire, ce sont les mots d'Éric et Ramzy, c'est très clair, ou presque pas, mais bon, ça nous fait rire en tout cas. Bonjour Bruno Fuini.
Bonjour Bruno.
Vous êtes notre sociétaire historien, créateur de la collection Insulaire, justement, aux éditions du Trésor. C'est une collection d'histoires vraies, comme on les aime dans cette émission, qui ont lieu sur des îles, ça tombe bien. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des océans et cette mer à tous, il faut en prendre soin. On a fêté nos mamans hier, ça c'est une autre mer, voilà. Et au cœur des océans, il y a des îles merveilleuses, étonnantes, fascinantes. On part avec vous dans le temps, un voyage dans le temps, 11 septembre 1966. On approche une île là et dans notre longue vue, même je sais pas si ça se fait encore la longue vue, on aperçoit des garçons qui courent sur la plage. On pensait que c'était une île déserte. De quoi s'agit-il ?
Il s'agit à peine d'une île, un îlot désolé qui s'appelle Atta. Le marin qui passe est un pêcheur, en fait, il n'a aucune raison de s'arrêter. Mais il est quand même intrigué parce qu'il voit qu'une partie de la végétation a été brûlée. Donc ça fait des taches noires, visibles de loin, c'est curieux. Et c'est pour cela qu'il fixe sa longue vue sur cet îlot, vraiment sans intérêt pour lui. Et là, il a la surprise de voir un jeune homme entièrement nu, avec des cheveux qui lui descendent plus bas que les épaules. Donc visiblement une victime d'un confinement assez radical. Quelqu'un qui vit sur cette île à l'état quasi sauvage depuis un certain temps.
Sa curiosité est piquée, donc forcément le pêcheur va s'approcher. Qu'est-ce qu'il découvre?
Il s'approche et donc le garçon en question vient vers lui, pas du tout sauvage, et dans un anglais absolument parfait, eh bien se présente et lui explique que lui et cinq compagnons de son âge eh bien sont là depuis environ 15 mois. Ils sont naufragés sur cette île, ils ont entre 14 et 17 ans. Et ils vivent comme ils peuvent sur cet îlot qui les a recueillis.
Alors, on est au cœur du Pacifique. Ils viennent d'où, ces adolescents? Et comment ont réagi leurs parents? Parce qu'on imagine les parents de ces adolescents qui les croyaient morts.
C'est une histoire terrible parce qu'au départ, ils viennent des îles Tonga, donc qui est un royaume polynésien, très chrétien. Et ils s'ennuyaient un petit peu dans le pensionnat où ils se trouvaient. Et par ailleurs, ils n'étaient pas très contents, si j'ai bien compris, de la cantine du dit pensionnat. Et donc, ils décident de faire une petite fugue en piquant la barque d'un pêcheur local qu'ils n'aiment pas beaucoup. Ouais. Et puis d'attraper un peu de poisson et de le faire griller. Sympathique partie de pêche, ouais. Un dimanche, avant de reprendre les cours. Bon.
Oui, c'est pas des révolutionnaires qui veulent tout envoyer valser, c'est plutôt une bande de copains
d'ados
et améliorer l'ordinaire.
Qui sont partis pour une petite partie en mer qui ne devait pas durer très longtemps, donc ils n'ont ni carte, ni boussole, ni outillage, quasiment rien. Sauf qu'ils ont tellement bien mangé de poissons grillés, et bien qu'ils s'endorment. Et quand ils se réveillent, ils sont loin des terres, c'est la tempête, ils dérivent pendant 8 jours.
Alors, ils vont arriver sur cette fameuse île, cet îlot, ce bout de terre, Bruno Fulini, donc qui s'appelle l'îlot Atta. Qu'est-ce qu'ils découvrent quand ils arrivent? Ça ressemble à quoi?
Il n'y a pas grand-chose. C'est une île assez nue, il y a de la roche, il y a un peu de végétation. Mais ils vont découvrir, parce que c'est un îlot volcanique, que tout en haut, il y a un ancien cratère. Et dans le cratère, il y a ce qui reste des anciens habitants. Les habitants ont été en fait raptés un siècle plus tôt par des trafiquants d'esclaves, ce qu'on appelait les Blackbirders dans le Pacifique. Et donc, il n'y a plus de population. Mais il reste des cultures, des bananes, des butaros. Et puis, il reste des poules qui sont revenues à peu près à l'état sauvage. Mais ça veut dire des œufs, ça veut dire de la volaille, donc on va pouvoir survivre. Et ils vont bricoler comme cela, un potager, un poulailler, et ils vont s'entraider en fait. Et à 6, ils vont vivre en Robinson pendant plus d'un an sur cet îlot. Ils vont recueillir de l'eau parce qu'il n'y a pas de source, donc ils vont recueillir de l'eau dans des coquilles de noix, de l'eau de pluie, et en se rationnant, en apprenant un petit peu à gérer ces stocks relativement restreints, ils vont survivre.
Et je parlais de la réaction de leurs parents. Est-ce qu'ils ont été punis à leur retour sur les îles Tonga?
Alors c'est pire que ça, c'est que évidemment, quelques semaines après leur disparition, on considère qu'ils se sont noyés. Et donc aux îles Tonga, eh bien, ils ont été en quelque sorte enterrés. En l'absence de corps, on a fait une cérémonie religieuse, on considère qu'ils sont morts noyés. Donc leurs familles sont dans la peine, considérant que ces enfants sont morts en mer. Et c'est pourquoi, lorsque le pêcheur australien qui les découvre 15 mois après leur disparition, envoie un message à la capitale des îles Tonga, vous savez que c'est Nuku'alofa, hein, tout le monde le sait,
bien sûr.
Lorsqu'il écrit, télégraphie à Nuku'alofa, c'est une émotion fantastique, vous les avez retrouvés. Et du coup, il va y avoir une couverture mondiale de la découverte de ces jeunes Robinson en 1966.
A inspiré Bruno Fulini un roman hyper célèbre d'aventure.
Alors en fait, cette histoire vient après la parution du roman. C'est-à-dire qu'il y a un roman qui s'appelle Sa Majesté des Mouches de William Golding, qui raconte exactement une histoire d'enfant abandonné sur une île. Sauf que l'histoire de Golding, qui est écrite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, est très noire. Ces enfants de la bonne société qui se trouvent livrés à eux-mêmes sur une île deviennent sauvages, bestiaux, extrêmement violents, vont jusqu'au crime. Alors que dans cette histoire vraie qui arrive 10 ans plus tard, au contraire, les gamins ont survécu parce qu'ils se sont jurés d'emblée de ne jamais se disputer et de s'entraider. Et d'ailleurs, l'un d'eux, par exemple, va se casser la jambe, les autres vont le soigner, le nourrir, et les médecins seront très surpris de voir que sa jambe s'est remise convenablement avec des attelles bricolées, avec des feuilles de bananier et des branches d'arbres. C'était quand même un peu rudimentaire comme médecine.
Quand la réalité est plus forte que la fiction, vous publiez Le Tour du Monde des Terres Françaises Oubliées aux éditions du Trésor, et tout de suite on fait une escale sur les îles Chesterfield devenues françaises grâce à du caca d'oiseau.
Mais pourquoi pas.
Récit tout de suite sur RTL.
C'est délicieux le crabe. J'en pouvais plus de ces noix de coco. Le lait de coco est un laxatif naturel. Une chose que Robinson ne nous avait pas dite.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est un sacré beau feu. Hein, Wilson ?
Sur RTL.
Du feu !
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est un feu de détresse ! Et il est meilleur SOS !
Extrait du film Seul au monde de Robert Zemeckis avec Tom Hanks évidemment dans le rôle principal. On découvre.
Et Wilson dans le rôle du ballon.
Mais oui, qui est son interlocuteur et qui lui évite plus ou moins de devenir complètement dingue. On découvre ces îles méconnues, mystérieuses avec notre invité, l'historien Bruno Fulini. Et là, on accoste aux îles Chesterfield qui sont donc des îles françaises. Est-ce que déjà aujourd'hui, vous pouvez nous décrire les lieux ? Est-ce qu'il y a une administration ? Est-ce que la France est bien représentée sur ces îles ou alors...
Si leur nom semble plutôt anglais, c'est le nom d'un navire qui a failli y couler à la fin du XVIIIe siècle, les îles Chesterfield sont bel et bien françaises, et c'est assez inattendu parce qu'elles sont au large de l'Australie. Elles sont françaises aujourd'hui encore. La France y est présente par une station météo, mais qui est automatisée. Donc il n'y a pas de population permanente. Et pour cause, ces îles, car c'est un archipel, sont au nombre d'une soixantaine. Certaines sont de simples récifs ou de simples bancs de sable, et au total les 60 îles, îlots, bancs de sable représentent ensemble à peine 1 km carré. Donc c'est vraiment une poussière de terre qui s'étend sur 20 000 km carrés d'étendue océanique. Donc sur la carte du monde, c'est vraiment tout petit point de rien du tout, on discerne à peine. Mais ces îles ont une histoire.
Alors justement, vous allez nous raconter
faire là,
cette histoire. Depuis quand ces îles Chesterfield donc, sont françaises ? Qui elles ont intéressé ? Qui a peut-être échoué là-bas ?
Au départ, elles n'intéressaient pas grand monde parce qu'elles sont très isolées, parce qu'elles sont dangereuses. Avec des bateaux à voile, c'était très difficile d'y naviguer. Seuls s'y risquaient les baleiniers au début du 19e siècle parce que c'était un endroit qui n'appartenait à personne, justement. Et donc, Anglais, Américains, Français, ils descendaient à terre. Ça permettait de chasser un peu, de ramasser des œufs d'oiseaux de mer. Il y a en particulier un oiseau qui s'appelle le noddy qui fait des œufs, paraît-il, assez savoureux. Et donc, on pouvait faire des omelettes au rhum. Ça changeait un petit peu, voilà. C'est très important. La nourriture pour les marins. Et donc ces îles n'appartiennent à personne, et encore une fois, on ne s'en préoccupe pas, c'est tellement minuscule. Et puis, nous arrivons en 1878, en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est à environ 600 km à l'est des Chesterfield. En Nouvelle-Calédonie arrive un bateau avec un Anglais qui vient voir un négociant français pour lui acheter du matériel et lui emprunter de l'argent. L'autre est un peu intrigué, donc il lui offre une bière, on discute, et l'Anglais lui explique qu'il elle va coloniser les îles Chesterfield, qui va les annexer au profit de Sa Majesté britannique. Ah bon ? Oui, parce que sur les îles Chesterfield, il y a une richesse insoupçonnée. Et donc, on fait boire et boire et boire cet Anglais. Et quand il est fin sous, Alcide Jean des Masures, donc ce négociant français, court avertir le gouverneur français de la Nouvelle-Calédonie. Et ces îles qui, pendant des décennies, n'intéressaient personne, du moment que les Anglais veulent les annexer, eh ben, il nous les faut.
La richesse insoupçonnée, c'est...
Eh bien, Sidonie l'a dit, c'est du caca d'oiseau.
C'est du guano.
Voilà, c'est ce qu'on appelle le guano. Pourquoi ? Les oiseaux de mer mangent du poisson. Ah. Et donc, ils rejettent ce qu'ils ont concassé dans leur estomac, essentiellement des squelettes de poisson. Et ça, eh bien, c'est très très riche en phosphate. Il faut savoir que le phosphate, c'est de l'engrais. Eh bien, à la fin du 19e siècle, on peut en sourire, mais il y a eu un boom du guano, un peu comparable à une ruée vers l'or. De véritables fortunes se sont bâties
de noir,
sur des îlots où il n'y avait qu'à gratter concassé pour extraire finalement un engrais naturel. Il fallait ensuite le transporter,
et donc
mais
là, il fallait
revendait très cher.
Il fallait être les premiers absolument sur cet archipel.
Et voilà, il fallait en prendre possession déjà pour pouvoir ensuite exploiter tranquillement le guano. Et donc c'est ce que font les Français. Le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie tout simplement dépêche un navire de guerre, un navire
tout
à vapeur, la Seudre, et le capitaine Guyon qui commande ce navire, eh bien fait donc cette petite traversée au Chesterfield. Et là, il y a une véritable cérémonie de prise de possession. On tire 21 coups de canon, on hisse les trois couleurs, on rédige un procès-verbal qui est publié. Donc là, plus rien à redire. L'archipel devient français, il l'est toujours aujourd'hui.
Et ce guano, il va être exploité longtemps ? Est-ce qu'aujourd'hui encore, on s'en sert ?
Alors, aujourd'hui, non. Mais il va être exploité un certain temps. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment remarquable et qui signe une prise de possession française, c'est qu'au moment où on débarque aux îles Chesterfield, et donc des Masures, grâce à qui l'archipel est devenu français, a obtenu le droit d'y exploiter lui-même le guano, eh bien, on débarque en même temps un agent du fisc.
Et donc,
il y a un fonctionnaire, Monsieur Martin, qui est là pour comptabiliser les tonnes de guano et pour prélever un franc par tonne de guano. Visiblement, d'après les archives, il est là avec sa femme. Ils tiennent 3 mois. Et sachant qu'il n'y a vraiment rien d'autre à faire au Chesterfield que de comptabiliser le guano. Les îles sont normalement assez belles, sable blanc, eau claire, cocotier, mais vous êtes en permanence sous la pluie des oiseaux de mer qui renouvellent le guano, donc ce n'est pas un séjour très agréable non plus. Et donc au bout de 3 mois, les Martins s'en vont, plus de prélèvement fiscal, l'exploitant doit juste fournir une déclaration du tonnage extrait, et là, bizarrement, eh bien, le rendement s'effondre.
Ah oui.
On n'extrait quasiment plus de guano au Chesterfield. Les mauvaises langues disent que des Masures le vend directement en Australie.
Ce soir, c'est l'épilogue de la finale de ce Koh-Lanta, l'île des héros. L'apothéose.
Thomas Hugues.
Le grand champion de Koh-Lanta. Oh, c'est sa 3e participation. Et ce soir, il va monter pour la 3e fois sur les poteaux. Un record.
Sidonie Bonnec.
Un concentré de bonne humeur et de ténacité. Cette boxeuse professionnelle ne lâche jamais rien.
La curiosité est un vilain défaut.
Tous veulent le titre et les 100 000 euros promis au vainqueur. Mais à la fin, il n'en restera qu'un.
RTL.
Koh-Lanta, où l'histoire de 14 naufragés volontaires, naufragés sur une île déserte.
Il y a quelques fans dans notre émission.
C'est vrai, il y a François Touchard,
par exemple. Et quelques déçus de la défaite de Claude, si je ne me trompe.
Un petit mot, François ?
Oui, félicitations Nawel, mais Claude méritait de gagner largement.
J'adore.
Bah, les choses
j'adore
sont précises.
Le clan des Koh-Lanta, c'est très drôle.
Mais nous aussi, les îles nous fascinent, elles nous attirent, elles sont lointaines, souvent, et mystérieuses. On découvre leur plus incroyable histoire avec notre historien Bruno Fulini, créateur de la collection Insulaire. On en dira un mot dans un instant aux éditions du Trésor, parce que c'est extrêmement joli et passionnant, avec une dernière histoire basque, celle du dénommé Léon Uturburu. De quel village vient-il et quel est son métier ?
Alors, il vient de Barcus, qui est un tout petit village des Pyrénées, qui n'a d'ailleurs aucun accès à la mer. Et lui, comme beaucoup de Français du sud-ouest de la France, au 19e siècle, va chercher fortune aux Amériques, en l'occurrence en Amérique du Sud. Et il va devenir un négociant assez prospère à Guayaquil, donc sur la rive pacifique de la République de l'Équateur. Et en même temps, il exerce les fonctions assez honorifiques de consul de France. Donc il a un rôle diplomatique. diplomatique en même temps qu'il fait des affaires. L'Équateur, au départ, ça faisait partie, bien sûr, des possessions espagnoles en Amérique du Sud. Et au début du 19e siècle, ça devient une république indépendante. Il y a deux généraux qui sont vraiment à l'origine de cette indépendance. Le général Flores, qui va donner son nom à l'île de Floreana. Et puis le général Villamil, qui va être nommé par son ami Flores, gouverneur des Galapagos, parce que l'Équateur, c'est bien sûr un morceau du continent sud-américain, mais dans le prolongement, il y a un archipel qui sont ces fameuses îles Galapagos. Or, le problème qu'a le général Flores et son ami Villamil, c'est que ils doivent de l'argent à ce Français, qui a été un petit peu leur bailleur de fonds au moment des guerres de l'indépendance. Il faut bien le rembourser quand même. Sinon, il va se plaindre à Paris, à faire des histoires, on est une petite république qui débute, c'est vraiment embêtant, on n'a pas d'armée, on n'a rien d'ailleurs, bon... On n'a pas de marine. Et du coup, ces généraux disent aux Français, bon, te rembourser, vraiment, on ne pourra jamais. En revanche, on a un archipel, là-bas, dont on ne fera rien. De toute façon, si les Anglais veulent s'en emparer, on n'est pas armé pour le défendre, on n'a pas de marine de guerre. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est que tu achètes à bas prix cet archipel et tu le revends à ton gouvernement français. Et comme ça, tu gagnes plein d'argent et nous, on ne doit plus rien. Ouais, petits arrangements à la mode sud-américaine qui portent juste sur un archipel entier.
Et donc, notre Léon Uturburu, il rentre dans la petite combine.
Il tente, c'est tentant. Et puis, s'enrichir en faisant plaisir à son gouvernement, c'est pas mal comme opération. Donc, il écrit une lettre au ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Guizot. Nous sommes au temps du roi Louis-Philippe en 1844. La lettre met du temps à arriver et on peut dire qu'elle ne convainc pas vraiment les diplomates français. Pourtant, Léon Uturburu a tout tenté et il explique, vous savez, si un jour, par exemple, on creusait un canal dans l'isthme centra-américain qui permettait de passer de l'Atlantique au Pacifique, ça serait très intéressant pour la France d'avoir une base navale du côté pacifique. Personne n'y prête trop attention, on laisse filer. Alors, de dépit, et quand même pour régler ses affaires, Uturburu va acheter pour son propre compte, enfin va recevoir en quelque sorte, en paiement de ce qu'il a avancé, l'île de Floreana, ou une grande partie de l'île de Floreana. Et puis à la fin de sa vie, il rentre sur ses terres, dans son village, pour y mourir. Il rentre à Barcus, il s'y éteint en 1860, il n'a pas d'enfant, il lègue tous ses biens à la commune. Et tous ses biens, ça inclut le titre de propriété de Floreana. Et
donc c'est un village basque qui est propriétaire d'une île des Galapagos.
C'est super pour les vacances.
Un village de montagne qui n'a aucun accès à la mer, mais qui revendique depuis maintenant donc 150 ans, 160 ans, une île des Galapagos.
Quand vous dites qu'il revendique, c'est-à-dire que les habitants aujourd'hui peuvent y aller légalement ou c'est beaucoup plus compliqué que ça?
Comme tout Français, on peut assez facilement faire du tourisme aux Galapagos, mais eux voudraient que soit reconnue la propriété de leur village. Parce que d'ailleurs, à Barcus, ne parlait surtout pas de Floreana. Ça s'appelle l'île des pauvres de Barcus, puisqu'elle a été léguée au bureau d'action sociale de la commune, en fait.
Quelle histoire ! Génial. Vous publiez Le Tour du monde des terres françaises oubliées aux éditions du Trésor. Bruno Fulini, mais aussi, vous avez créé cette collection. Vous en avez apporté, là, ces deux petits fascicules,
là.
Les insulaires. Chaque petit livret est un voyage sur une île, c'est ça ?
C'est ça. Ce sont des histoires vraies qui ont eu lieu à chaque fois sur une île, et je dirais qu'ils ne peuvent avoir lieu que sur une île. L'île de Marlon Brando par Bruno Léandri, La bête de Jersey par Stéphane Bourgoin. D'autres titres vont suivre. Et l'originalité de cette collection, c'est que ce sont des petits livres en format oblong, comme cela, mais ils sont enveloppés dans la carte de l'île. C'est-à-dire que vous pouvez lire en parallèle l'histoire et déplier la carte, et chaque carte est commandée à un dessinateur d'aujourd'hui. Ce sont
c'est
des cartes
joli,
qui sont justes géographiquement, mais qui sont aussi très belles à voir. Et donc, on a ce plaisir que je trouve immense de scruter des cartes géographiques pour y trouver des îlots un petit peu oubliés où il s'est passé plein de choses.
Magnifique voyage.
Merci.
Aux éditions du Trésor, merci beaucoup.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.